Ce 10 mars marque le 60e anniversaire du soulèvement tibétain contre l'occupation chinoise. C'était le 10 mars 1959, une tentative violemment réprimée par l'armée chinoise. En direct avec nous, Katia Buffetrie. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Tibet à l'École pratique des hautes études à Paris. Votre prochain livre apparaîtra pour titre L'âge d'or du Tibet. Alors donc, des cérémonies et des manifestations ont lieu en ce moment pour marquer cet anniversaire autour de la communauté tibétaine en exil, notamment à Paris, mais surtout Bruxelles. Pourquoi Bruxelles ?
Eh bien, c'est le quatrième rassemblement donc des diverses communautés tibétaines d'Europe. Il y avait déjà eu lieu à Bruxelles en 2013, Paris en 2015 et Genève en 2018. Je pense que cette année, ce n'est pas neutre hein, qu'ils aient choisi Bruxelles, c'est quand même le centre de l'Europe, n'est-ce pas ? Donc, c'est là où une grande partie des Tibétains et des supports et des soutiens des Tibétains vont se réunir, sont en train de se réunir actuellement à Bruxelles. Mais sinon, il y en a aussi dans toutes les villes d'Europe, à des degrés divers de taille.
Et notamment l'importance de la communauté tibétaine en France ?
Alors, l'importance de la communauté tibétaine en France, exactement, on ne la connaît pas, puisqu'il y a quand même pas mal de réfugiés qui ne sont pas encore enregistrés, mais il y en a plusieurs milliers maintenant, hein.
Alors, en Inde, cette fois, une foule immense est retrouvée ce matin au temple du Dalai Lama, de Dharamsala, pour commémorer l'anniversaire. En 1959, la répression par la Chine du soulèvement avait poussé à l'exil en Inde leur chef spirituel. Sans entrer dans le détail, Katia Buffetrie, rappelez-nous pourquoi ce 10 mars 59 est une date majeure pour le Tibet libre.
En fait, au mois de mars 59, le Dalai Lama a été invité à assister à une représentation très théâtrale au siège de l'Armée populaire de libération, mais il lui avait été demandé qu'il ne vienne pas avec sa garde habituelle. Donc la rumeur s'est très rapidement propagée dans Lhasa qu'on voulait l'enlever. La foule s'est réunie le 10 mars au Norbulinka, le palais d'été où il résidait. Les démonstrations, les manifestations ont commencé et le 17, alors que le Norbulinka a été bombardé deux fois, l'oracle d'État a conseillé au Dalai Lama de partir et il est parti le soir même, accompagné par des membres de l'armée de résistance et il est arrivé de manière sûre en Inde quelques jours après.
Et pendant ce temps, la répression de l'armée chinoise faisait de très nombreuses victimes au Tibet.
Alors, il y a eu effectivement de très nombreuses victimes. Le nombre, on l'ignore. Il y a eu aussi, des victimes humaines et il y a eu de gros dégâts aussi sur le patrimoine culturel, bien évidemment.
À cet anniversaire s'ajoute un autre, le 11e anniversaire de la répression des manifestations de 2008 au Tibet. C'était toujours au mois de mars.
Absolument, c'était le jour important pour les Chinois, c'est le 14 mars, mais alors qu'il y a eu des centaines de manifestations totalement pacifiques, il y en a eu quelques-unes un peu violentes, effectivement le 14 mars à Lhasa a été violent, et c'est appelé d'ailleurs en Chine le 14-3, ou 3-14 plutôt, et donc c'était le jour où effectivement il y a eu une répression terrible, mais depuis 2008 la répression n'a pas cessé de continuer et d'augmenter.
On va en parler, comment vit-on ces anniversaires sur place, à Lhasa et ailleurs au Tibet. Est-ce que les autorités chinoises craignent des manifestations ?
Alors d'abord, ils ont fermé le Tibet, la région autonome du Tibet. Ce que les Chinois appellent le Tibet, c'est la région autonome du Tibet. Donc ils ont fermé la région autonome à partir du 30 janvier jusqu'au mois d'avril. D'habitude, c'est souvent plutôt vers le 10-15 février. On sait qu'il y a eu des polices un peu partout. Déjà, en temps normal, à Lhasa, vous avez des caméras qui sont à peu près tous les 5 mètres. Vous avez la police partout. Donc là, il y a encore plus de police, certainement encore plus de caméras. Ils ont annoncé officiellement juste à ce moment, le 5 mars, que la reconnaissance faciale et la surveillance en temps réel étaient installées dans les taxis. Donc même dans les taxis, vous allez pouvoir être surveillé. Hein, on va pouvoir savoir ce que vous faites exactement. Il y a eu des restrictions à la circulation. Donc des Tibétains, même dans les régions de l'Est, donc pas la région autonome, qui sont dans le Sichuan, le Yunnan, le Gansu et le Qinghai, ils ont eu des restrictions de circulation, parfois de village à village. Tous ceux qui voyagent, pèlerins et hommes d'affaires qui sont à Lhasa, ont l'obligation de fermer leur téléphone.
Et on dit, on dit qu'il est plus difficile pour les journalistes de se rendre à Lhasa qu'à Pyongyang.
Alors, bah, de toute manière, normalement, les journalistes ne vont pas à Lhasa, donc le problème est résolu. Effectivement, on ne peut pas aller à Lhasa en tant que journaliste, sauf lors d'un voyage organisé, où alors là, vous avez droit à ce qu'on veut bien vous montrer.
Est-ce que la situation a empiré depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, c'était en 2012 ?
Très nettement, oui, très nettement. Il y a une pression sur la religion, hein, pour une sinisation de la religion. Il y a à tous les niveaux, hein, sur la langue, sur la religion, sur la culture. J'ai trouvé un article juste récemment qui a des discriminations aussi dans les villes chinoises, par exemple à Shenzhou. C'est Apple qui a fait un appel d'offres pour avoir des travailleurs, mais c'était marqué Tibétain et Ouïghour s'abstenir. Il y a maintenant l'interdiction au monastère d'enseigner le tibétain, alors que souvent les enfants sont envoyés dans les écoles chinoises afin qu'ils bénéficient d'un chinois correct pour trouver du travail. Ils apprenaient le tibétain pendant des vacances dans les monastères, donc dans certaines régions, c'est maintenant interdit. Fin de l'enseignement.
Le temps passe, je vais quand même vous poser une dernière question, 45 secondes pour répondre, d'accord. S'il vous plaît. Le Dalai Lama a plus de 80 ans, comment se passera sa succession, comment on peut l'imaginer ?
Eh bien écoutez, il lui a été demandé plusieurs fois ce qu'il envisageait. La seule chose que l'on sache, qu'il a redit plusieurs fois, c'est que ce sera la décision des Tibétains d'un groupe de savoir s'ils veulent ou non un autre Dalai Lama. Maintenant, comment cela va se passer ? Il refuse de répondre à cette question, disant qu'il est en très bonne santé et donc on a le temps d'en parler.
Merci d'avoir été en direct avec nous. Et puis, puisqu'on a une trentaine de secondes, une toute dernière question. Quelle est à ce jour la réaction de la communauté internationale à l'égard de la politique chinoise au Tibet ?
Ben, il n'y en a pas. C'est-à-dire que depuis 2016, le Dalai Lama n'est plus reçu par aucun chef d'État. La pression de la Chine, qui a beaucoup de cartes en main, est d'empêcher toute relation. Et effectivement, pour le moment, il y a un manque d'appui assez fort de la part des différents gouvernements occidentaux.
Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions en direct, Katia Buffetri. Bonne journée, bon dimanche. À bientôt sur notre antenne.